Cela ne t'a probablement pas échappé, les initiatives vers un monde plus durable prennent de l'ampleur avec l'essor du reconditionnement des produits. Alors bien sûr, il ne faut pas confondre réparation et reconditionnement. Ce sont deux approches complémentaires mais différentes pour prolonger la vie des produits. Alors que la réparation vise, comme son nom l'indique, à réparer les défauts d'un produit, le reconditionnement va quant à lui beaucoup plus loin en remettant à neuf le produit pour en améliorer la performance et la durabilité. Bonne nouvelle, le reconditionnement a le vent en poupée, oui, et oui, bonne nouvelle, parce que les consommateurs, comme toi et moi, optent désormais pour des produits remis à neuf pour réduire leur impact sur leur environnement, tout en préservant leur pouvoir d'achat. Les industriels, quant à eux, ils réinventent un modèle économique en s'adaptant à la demande grandissante pour ces produits durables et écologiques. Et comme par hasard, le reconditionnement s'impose petit à petit comme une réponse crédible pour réduire les déchets tout en offrant des produits de qualité à des prix parfois très abordables. On reconditionne tout, ou presque, les smartphones, les voitures, les lave-vaisselles, les lave-linges, les grille-pains, les chaises, les tables, la liste est longue. Et tu vas me dire, et les fringues, et les vêtements, ça te tente? Tu as un blocage sur le sujet? Et si louer des vêtements reconditionnés était à l'ère de la fast fashion une étape importante vers un modèle économique plus durable et plus respectueux de l'environnement? Pour bien comprendre ce que ça peut changer foncièrement, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Digital pour tous, Gabrielle Hurtel, fondatrice et CEO de Lily & Jude. C'est une marque qui distribue des vêtements de bébés éco-responsables en location et en e-commerce. Bonjour Gabrielle.
Bonjour PPC. Merci beaucoup de m'inviter.
Eh ben, je suis très heureux de t'accueillir parce que tu as une très très belle idée. Ma première question pour toi, je voudrais savoir d'où t'es venue l'idée de te lancer dans cette aventure.
L'idée m'est venue quand je suis devenue maman, après environ 10 mois de changements successifs de garde-robe de mon fils. Je me prenais vraiment la tête en fait, à essayer de trouver des vêtements éthiques, mais de seconde main, dans un style assez mixte. Voilà, tous ces critères réunis et qui tiennent bien sûr dans mon budget. Ça me prenait beaucoup de temps et en fait, à l'aube de ces 1 an, je me suis dit, et si je pouvais emprunter des vêtements auprès des marques éthiques que j'ai envie de soutenir et d'en profiter pour la durée nécessaire, c'est-à-dire 2-3 mois, et ensuite les renvoyer. Et c'est comme ça qu'est née mon idée de mettre les vêtements en location.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle une belle idée de la nuit, mais j'ai coutume de dire que les belles idées, les idées sont belles lorsqu'elles voient le jour. Une fois que tu as eu l'idée, tu t'y es pris comment pour commencer à ouvrir finalement Lily & Jude?
Alors, s'en sont suivis quelques mois d'analyse quand même du marché, qu'est-ce qui existe déjà en France, à l'étranger. Je me suis rendu compte qu'en France, il y avait quelques solutions, mais aucune n'émergeait vraiment encore. Et à l'étranger, en revanche, il y avait des beaux modèles qui avaient fait leurs preuves et qui étaient assez inspirants. Donc, je me suis dit qu'il y avait une opportunité aussi en France. Et ensuite, je n'avais pas encore à ce stade d'associé. Donc, je me suis rapprochée d'un incubateur à impact, qui est La Ruche, à Bordeaux, et qui vraiment m'a épaulée au début du projet pour passer de l'idée au lancement de la société.
Et dans les principales difficultés, parce que quand on innove, hein, y a toujours plein de gens qui disent « ça ne marchera jamais !» Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ?
C'est sûr que l'idée en tant que telle amène beaucoup de freins. Il y a beaucoup de personnes qui tout de suite pensent aux freins et je les comprends parce que c'est dans l'usage une innovation. Donc en fait, au début, je me suis confrontée à ça. En fait, alors que j'essayais moi-même de prouver qu'il y avait un modèle possible, je vais répondre à toutes les interrogations et tous les doutes des personnes à qui j'en parlais sur le fait que personne n'allait vouloir louer, en fait, qu'on est trop attaché à la possession et que ce gap était trop gros. Heureusement, là, ces deux dernières années, la situation a bien évolué et je pense que ces freins se sont levés pour beaucoup de personnes.
Surtout qu'en plus, toi, tu es allé chercher les vêtements reconditionnés de bébés. Donc, en fait, on touche un truc qui, dans l'imagerie, voilà, il faut que ça soit super propre, c'est ça?
Exactement, exactement. Il y a vraiment, je pense que quand on a un enfant, surtout quand c'est le premier, on veut le meilleur, même si on est hyper écolo, on se dit, en fait, c'est mon premier bébé, il faut des vêtements vraiment propres et de bonne qualité. Et, enfin, voilà, on se met des exigences en plus. Donc, c'est sûr qu'il faut gagner la confiance des parents et ça, c'était une de nos missions.
Gros challenge, gagner la confiance des parents. Tu peux nous parler un peu du business model? Comment ça marche un modèle comme celui-ci?
Alors oui, bien sûr. Nous, on a choisi d'acheter les vêtements neufs auprès des marques. C'était un vrai parti pris parce qu'on aurait pu aussi se dire, bah, on va sélectionner des pièces déjà en seconde main qu'on va chiner sur des sites de seconde main. Mais en fait, on voulait déjà s'approvisionner uniquement auprès de marques éco-responsables. Ça avait vraiment son importance pour nous parce qu'on veut les soutenir et on est convaincu que, par exemple, la seconde main issue de la fast fashion, même si c'est de la seconde main et c'est très bien de la faire revivre, mais on vient quand même soutenir d'une certaine manière la fast fashion. Donc nous, voilà, on voulait être exclusivement éthique et éco-responsable. Et ensuite, il y avait aussi un choix d'attractivité de l'offre, en fait. On voulait qu'il y ait une vraie cohérence dans notre assortiment pour que, en fait, la location, déjà qu'on partait avec, on va dire, quelques boulets au pied en se disant que, bon, déjà, il fallait surmonter des freins psychologiques que les gens avaient. Si, en plus, notre collection n'était pas jolie, merchandisée comme sur un vrai site e-commerce, qu'on n'allait pas y arriver. Donc, on a voulu vraiment se dire, allez, on sélectionne des pièces, on fait une vraie sélection, une vraie collection, avec l'accent mis sur l'éco-responsabilité et sur le design et l'esthétique. Donc voilà, ça c'est la première partie du modèle. Et ensuite, on met en location les vêtements sous forme d'abonnements mensuels, qui sont sans engagement. Enfin, je pourrais en dire plus après.
Ah, pas mal ça. Donc y a, c'est intéressant parce que oui, effectivement, les enfants grandissent en plus à une vitesse de dingue. Donc, dans ton abonnement, ça permet d'avoir un suivi tout au long de l'évolution de cette chère progéniture, c'est ça ?
Alors, l'abonnement permet d'être flexible, en fait, parce que ça permet au mois le mois de piloter sa garde-robe, de se dire, bon, bah, à la fin de chaque mois, nous, on envoie un petit mail automatique qui rappelle, OK, votre abonnement arrive bientôt à échéance, enfin, va se renouveler. Que voulez-vous faire ? Est-ce que vous voulez tout nous renvoyer ? Est-ce que vous voulez renvoyer une partie, rajouter des pièces ? Est-ce que vous voulez poursuivre ? En fait, les parents ont toutes les possibilités. Et en fonction de ça, ils vont pouvoir, s'ils nous disent rien, c'est qu'ils veulent poursuivre leur abonnement et ça se renouvelle autant de fois que nécessaire. En moyenne, on est plutôt sur 2-3 mois. Un abonnement avec une sélection va durer 2-3 mois. Ensuite, la famille va passer à autre chose parce que soit la saison a changé, soit la taille de bébé a changé.
On parle sous, hein, on va parler pépette, brousouf, caillasse et autre chose. Globalement, ça permet d'économiser combien pour une famille avec un enfant qui vient d'arriver ?
C'est une super question parce que la partie économique, en fait, en fait, nous, ce qu'on a vraiment à cœur de faire, c'est de rendre la mode éthique plus accessible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va, sur cette catégorie de produits, permettre aux parents de faire plus d'économies. Et je vais vous expliquer parce qu'on a à peu près fait des calculs pour se rendre compte combien on économiserait. En revanche, on ne prône pas une solution qui est, si quelqu'un cherche la solution la plus économique qui soit pour s'habiller, pour habiller son enfant, on ne rivalise pas avec des grandes enseignes à bas coût, en fait. Ça, c'est impossible. Enfin, je veux dire, et c'est même pas notre intention. Notre intention, c'est vraiment comme une sorte de subvention écologique pour permettre aujourd'hui, tout le monde ne peut pas s'acheter un vélo électrique et on peut avoir une aide pour y avoir accès. Et nous, c'est un peu la même chose, c'est un peu notre vision pour les vêtements. C'est de se dire, la plupart des gens ne peuvent pas s'acheter des vêtements auprès de marques éthiques. Ça coûte trop cher, surtout pour une durée d'utilisation si courte. Mais avec notre modèle, on veut rendre ça plus accessible à tout le monde. Et dans nos clientes, on a une maîtresse d'école, une infirmière, une secrétaire, enfin voilà, des personnes qui nous disent autrement qu'elles sont éloignées de ce type de marque. Donc sur 2-3 ans, je crois que c'était sur 3 ans, on a estimé qu'on économisait 1 200 € sur un abonnement à 30 € par mois par rapport à si on achetait ses vêtements auprès des marques. Donc voilà, c'est une subvention écologique comme on l'appelle chez nous.
C'est très fort, c'est important parce que bon, les jeunes parents ont tout d'un coup un grand changement dans leur pouvoir d'achat parce qu'il y a quand même beaucoup de frais qui arrivent. Les marques justement avec lesquelles tu travailles, que tu vas voir, quand tu vas les voir en disant bon ben on a besoin que vous fassiez quand même un geste aussi pour que ça puisse fonctionner dans le modèle. Comment ils accueillent ta démarche ?
Franchement, j'ai été vraiment ravie quand, il y a déjà peut-être un an et demi de ça, avant que je lance le site et autres, je contactais les marques et j'avais peur de me prendre beaucoup de refus, que les marques voient ça comme une sorte de concurrence, de cannibalisation de leur modèle classique. Enfin voilà, j'avais plein d'appréhensions et en fait, pas du tout. Les marques que j'ai contactées, c'est là qu'on voit leurs valeurs sont vraies parce qu'en fait ils étaient sincèrement touchés par cette démarche et la plupart des marques m'ont facilité l'accès à leurs produits, ont par exemple baissé leur minimum de les quantités minimum pour commander, enfin voilà, ont été vraiment non seulement ont accepté qu'on travaille ensemble mais en plus étaient contentes de travailler avec nous et nous ont facilité l'accès, donc ça c'est très chouette.
Tiens, il y a Charles qui te pose une question, qui dit mais comment vous y prenez et comment tu fais pour reconditionner un vêtement tout en respectant l'environnement ?
Oui, alors merci Charles pour cette question. Donc nous, pour l'instant, on a vraiment internalisé cette partie parce qu'on apprend encore tous les jours sur cette partie remise en état, comprendre comment faire, comment préserver les fibres textiles. On va faire attention aux produits qu'on utilise. Déjà, c'est la première chose. On va essayer d'utiliser que une lessive bio avec un maximum de composants naturels. On va mettre très très peu à cette heure-ci, je trouve pas mes mots. D'assouplissant. On va en mettre très très peu, mais à Bordeaux, on a une eau très dure, donc je suis obligée d'en mettre un petit peu. Et ensuite, évidemment, pas de sèche-linge, les vêtements vont sécher à l'air libre. Ensuite, on a une phase de débouloschage, on a une petite machine qui n'est pas très consommatrice en énergie, mais qu'on utilise, qui nous permet de vraiment remettre à neuf les produits. Et on travaille avec une couturière à Bordeaux qui, quand il y a des petits accros, des petites choses comme ça, remet en état le vêtement. Et en cas de tâche, on a aussi toute une panoplie de produits naturels qu'on utilise, comme du savon de Marseille, du fil de bœuf, du bicarbonate de soude, enfin voilà, que des produits non nocifs pour l'environnement et qui font leur preuve.
Il y a une confirmation, puisque tu nous parlais de l'eau qui était très dure à Bordeaux, c'est Laura qui le dit, je confirme, c'est un enfer.
Exactement.
C'est bon à savoir. On va faire un petit truc un peu bizarre. Quel est le meilleur moment que tu as vécu depuis que tu t'es lancé dans cette très chouette aventure ?
Ah, le meilleur moment, il y en a plein, mais je pense que les moments que je préfère personnellement, ce sont les moments de rencontre avec nos clientes, en fait, avec les mamans bordelaises. Pour l'instant, on n'a pas fait encore ça dans d'autres villes, mais on organise des fois des pop-up. C'est dans mon salon, on est encore à cette taille d'entreprise où on bootstrap, comme on dit, mais mon salon s'y prête. Et donc, on organise des fois des rencontres avec une thématique, un atelier, voilà. Et les mamans viennent à la maison, c'est vraiment, on a une bonne ambiance, et c'est le moment, je trouve, où la magie se passe, parce que des fois, il y a des mamans qui viennent plus intéressées, on va dire, par le café ou l'activité qui est proposée, mais pas tant par notre concept, et pourtant, ça fait des mois qu'elles nous suivent sur les réseaux, enfin voilà, et en fait, quand je me retrouve, c'est arrivé encore en novembre, je me retrouve face à elles, et que je vais pitcher le projet vraiment de vive voix, et là, je vois le moment, en fait, où dans les yeux de la personne, il y a des petites étoiles, et où la personne comprend, ah ouais, mais c'est génial, en fait, ok, et puis elle s'abonne, et ensuite, c'est lancé. Donc ces moments-là, pour moi, c'est des super moments.
Tiens, Vincent demande quelques précisions, parce que c'est l'heure des précisions. Il dit, je ne comprends pas, les vêtements viennent de marque, mais pas du marché d'occasion, donc c'est du neuf ou du déjà utilisé ? Si j'ai bien compris, vous achetez neuf, vous mettez sur le marché, et ensuite vous reconditionnez, c'est ça ?
Exactement. En fait, on achète neuf, mais c'est ce que j'ai expliqué, c'est vraiment parce qu'on achète des vêtements de qualité qui sont faits pour durer, pour avoir une collection qui a une homogénéité, etc., et pour soutenir des marques éthiques, parce que sinon, on les trouve très peu sur le marché de l'occasion, ces marques-là. Elles sont très peu distribuées. Et donc, on les achète neuves, mais ensuite, elles sont mises en location. Aujourd'hui, on n'a que un an d'activité, on a déjà plus de la moitié de notre stock qui a vécu déjà plus de deux vies, trois vies, quatre vies. Enfin voilà, donc on a vraiment un stock de seconde main qu'on fait durer. Et si on avait pas ce type de vêtements, ça durerait beaucoup moins longtemps. Parce que là, on le voit, c'est une telle qualité qu'on peut faire durer les vêtements vraiment de nombreux mois. Donc c'est chouette.
C'est chouette, j'aime bien cette notion de donner plus de vie, plusieurs vies en fait à des vêtements, c'est une bonne idée. Tiens, Laura nous dit, c'est le retour des réunions Tupperware ou Avon, comme quoi les bonnes tactiques fonctionnent toujours, l'humain avant le digital. Ça c'est dans ta stratégie de distribution, c'est très important justement ces rencontres, ce bouche à oreille, c'est comme ça que tu comptes te développer ?
C'est vrai que c'est quelque chose de très important pour moi. Depuis le début, je me suis toujours imaginé organiser des rencontres dans toutes les villes de France, aller à la rencontre des gens et créer des temps d'échange. Donc voilà, c'est très important. Et je pense que justement sur ce type d'innovation d'usage avec ce qui change tant les habitudes, je vais avoir besoin en fait d'avoir des clientes ambassadrices qui en parlent. Donc le bouche à oreille et l'humain va être au cœur de ça. Et c'est déjà ce qu'on constate aujourd'hui parce que là, on a vraiment aujourd'hui une croissance organique. On a encore peu investi en marketing. Et la plupart de nos abonnés viennent soit de nos événements ou soit de bouche à oreille, en fait, ou de cartes cadeaux qui ont été offertes, mais c'est un peu comme du bouche à oreille aussi, parce que c'est une amie qui offre à une amie, et puis ça, voilà, et la chaîne continue.
Tu nous parlais du nombre de vies sur des vêtements. Charles pose la question, est-ce que tu as une anecdote sur des vêtements qui sont revenus, mais totalement irrécupérables ?
Ah oui, ça c'est arrivé, c'est arrivé. Heureusement, c'est vraiment une minorité. Hein. La plupart reviennent avec une tache ou rien des fois, hein, mais voilà, et c'est toujours récupérable. Mais c'est vrai qu'on a eu, je m'en rappelle vraiment au tout début, quand je venais de lancer le site il y a un an, j'avais pas encore rencontré mon associé, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je me suis associée depuis. Et voilà, et j'avais loué des vêtements qui en fait étaient revenus au bout d'un mois seulement, c'était une des pièces un peu phares de la collection, et qui était revenue, mais comme si elle avait vécu, sans rire, un an et demi de vie, je comprends pas ce qui s'est passé. Donc voilà, il n'y a pas d'anecdote très croustillante derrière ça, à part que j'étais dépitée et que je me suis dit, mais si c'est comme ça tout le temps, comment je vais faire? Et c'était irrécupérable, et pour tout vous dire, j'ai fini par la vendre sur Vinted, ce qui n'est pas du tout ma stratégie de vente ou de développement, mais en fait, je ne savais plus quoi faire de cette pièce, j'avais pas encore créé de braderie sur notre site, donc je l'ai vendue sur Vinted pour trois fois rien, et c'était un peu un échec, cette pièce. Mais bon, ça n'a pas été le cas à chaque fois, heureusement.
Ouais, c'était peut-être l'enfant d'un couple de cascadeurs qui avait des bonnes idées. Gabriel, quand on a démarré l'enregistrement de ce podcast en direct, tu m'as dit, j'aimerais bien poser une question aux participants. Oui. Et la question que tu leur as posée, c'est quels seraient vos arguments pour convaincre votre meilleur ami de louer des vêtements reconditionnés? J'ai quelques réponses et je voulais te faire réagir justement sur ces éléments de réponse. Vincent nous dit, l'argument est très simple, tu leur dis essaye et tu verras bien. Voilà, après tout, ouais, il faut y aller. L'essayer, c'est l'adopter, c'est peut-être une bonne idée. Et puis, tiens, on a aussi notre ami Charles qui dit, ben lui, l'argument qu'il donnerait, c'est d'abord le prix, ensuite le geste pour la planète avec la réutilisation, le fait de limiter le nombre de vêtements, et puis peut-être le gain de place. Parmi ces trois arguments, quels sont ceux qui marchent le mieux, Gabriel?
C'est très pertinent. Je pense que le prix, effectivement, je pense que c'est un des premiers arguments qui vient. Comme je disais tout à l'heure, il y a une petite nuance. C'est pas les personnes qui viennent chercher le prix savent qu'elles pourraient payer encore moins cher si elles allaient acheter en grande surface des vêtements. Donc c'est plus le fait de l'accessibilité à des marques autrement inaccessibles, dans l'optique d'avoir une jolie qualité, un style qui leur plaît, et évidemment c'est cette démarche éco-responsable. Donc le prix, je pense qu'il vient en premier, et la dimension éco-responsable, elle est plus ou moins forte selon nos clientes, mais vraiment c'est sûr que c'est au cœur de notre proposition et de ce que nos clients cherchent. Et le gain de place, alors ça c'est marrant, j'ai l'impression que c'est plus masculin, parce que c'est un argument qui vient, hein. On en a discuté encore la semaine dernière avec mon associé, nos pères, nos compagnons vont mettre cet argument en priorité, et je le comprends évidemment, moi personnellement c'est peut-être pas celui qui me parle le plus, parce que je me dis bon bah si on a plein de vêtements qui nous gênent, on les donne ou on les vend, mais voilà, visiblement c'est un argument qui... important pour beaucoup de personnes, donc il est très pertinent.
Allez, un peu de mise en perspective. Comment tu vois l'évolution de ton modèle dans les années qui viennent?
Alors, au niveau de Lilian Jude ou au niveau du marché?
C'est toi qui vois. C'est toi qui choisis.
Ok. Alors, au niveau du marché, je pense que ça va vraiment se développer. Ça, on a vu l'arrivée de gros acteurs là, cette année, comme Petit Bateau, Kiabi, qui en teste aussi sur la location. Enfin, voilà, des beaux acteurs qui se lancent. Donc, ça, pour nous, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, on n'a encore pas. Je pense qu'en France, on n'est encore pas. La location n'a encore pas fait sa place comme l'a fait la seconde main, en fait. Hein. Je pense que c'est encore quelque chose qui doit se faire une place. Donc, c'est vrai que c'est un combat de tous les jours où on doit non seulement faire connaître, nous, notre solution, mais en plus aussi évangéliser ce mode de consommation nouveau. Et nous, on en est au niveau de Lilian Jude, on en est, on va dire, à un stade un peu intermédiaire d'une vie d'une start-up où à la fois on a le sentiment d'avoir quand même prouvé qu'on avait un market fit, on a vraiment des abonnés fidèles depuis une année entière, on a des beaux indicateurs, mais maintenant il faut qu'on arrive à passer à cette échelle supérieure, à toucher plus de familles et à se faire connaître. Donc voilà, c'est notre défi de l'année qui vient et on donne tout pour y arriver.
Tu vois, il y a une solidarité masculine qui vient de se générer. Vincent répond à Charles en disant « Les hommes pensent de là à la place, parce que c'est encore les hommes qui montent les placards Ikea. » Merci beaucoup.
Ah, c'est un cliché, ça, Vincent.
Un cliché, c'est moche de dire ça. Voilà. Tiens, José, je te pose une question intéressante sur le futur, sur le développement. Il réagit en disant « Tu as un modèle de développement qui est plutôt très urbain. Quid des campagnes ?»
Alors, c'est une question que je me posais avant de lancer. Je me demandais si ma cliente allait être exclusivement citadine ou pas. Alors, j'ai il faudrait que je pousse un peu l'analyse, j'avoue, sur nos abonnés, nos clientes de l'année passée. Mais j'ai quand même, à chaque fois que j'ai une nouvelle cliente, je regarde, je tape son code postal sur Google et je regarde d'où elle vient. Et j'ai vraiment des clientes qui viennent de la campagne. Donc, c'est assez chouette. Pour le moment, j'ai l'impression que je n'ai pas des clientes que citadines. Et j'en ai pourtant qui habitent dans, voilà, dans des maisons à la campagne, qui ont de la place, mais qui adhèrent vraiment à ce modèle de consommation où peut-être qu'elles ont déjà un ou deux enfants et que c'est le troisième et qu'elles ont déjà pas mal de stock et qu'en fait c'est juste pour ces petits achats en plus qui elles auraient mauvaise conscience à acheter plus parce qu'elles savent l'impact que ça a et donc elles louent pour leur petit dernier. Voilà, j'arrive pas encore bien à expliquer, mais c'est pas uniquement pour les citadins et les citadines.
Bon, ça c'est la bonne nouvelle. Dernière question, c'est la question que te pose Vincent. Est-ce que tu vas lancer le concept pour les adultes?
Alors, pour des habits de tous les jours, non, a priori, on va quand même rester assez spécialisé dans l'univers maternité-enfance. En revanche, on a déjà lancé quelque chose en test l'été dernier qui a bien plu. C'est pour les femmes qui allaitent, des robes d'allaitement, enfin voilà, assez élégantes qui peuvent se louer pour un événement, un mariage ou voilà, une occasion spéciale. Parce que quand on allaite, on ne sait pas pour combien de temps, on n'a pas forcément le budget d'acheter une nouvelle robe pour un mariage et spécifique en plus à l'allaitement. Donc voilà, on a testé ça l'été dernier, ça a bien plu. Donc on aimerait bien peut-être élargir à d'autres catégories comme les vêtements de grossesse. Voilà, grossesse et allaitement, ça a du sens pour nous.
Bon, génial. Bah, écoute, bravo. On va suivre cette aventure avec vraiment beaucoup, beaucoup d'intérêt. Un grand merci, Gabriel,
merci.
D'être passé
merci
ce matin.
Beaucoup.
Merci à toi.
Merci beaucoup, PPC.
Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir participé aussi pour le direct. Voilà, vos questions font l'émission, comme dirait l'autre. C'est très bien. Un grand merci d'être passé. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. N'hésite pas à partager autour de toi si tu as trouvé ça formidable. Fais savoir, fais connaître. Voilà. Donne aussi fais rayonner et donner de la visibilité aussi à nos invités, parce que là, on a une chouette aventure entrepreneuriale qui a du sens. Et ça fait vraiment plaisir. Et on le voit avec le digital, on peut faire plein de choses. Voilà, d'ici là, porte-toi bien et surtout, fais-toi plaisir. Ciao.